Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Midi pile à Kinshasa, 13h à Uvira, au sud Kivu. Voici le titre de cette édition. Le gouvernement de la République démocratique du Congo rejette en bloc toutes les allégations de Human Rights Watch sur la répression des opposants à la veille des élections. À travers un communiqué du ministère de la Communication et Médias, le gouvernement dit accorder une valeur primordiale à la protection des droits humains et aux idéaux démocratiques qu'ils incarnent. L'Institut des recherches en droits humains basé à Lubumbashi confirme l'arrestation du commandant de la 22e région militaire et sa mise à la disposition de la justice. Plusieurs sources dans la capitale cuprifère évoquent l'affaire de la disparition de 120 tonnes de cathode de cuivre appartenant à l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining. L'invité de ce journal est Maître Libwe Mufumbe Élisée Médard du réseau d'innovationnel organisationnel Rio à Bukavu, au sud Kivu. Il parle de la nécessité de booster le développement à la base au moyen des recettes mobilisées par les entités territoriales décentralisées. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le gouvernement de la RDC a rejeté hier mercredi, à travers un communiqué publié par le ministère de la Communication et Médias, les allégations des Human Rights Watch sur la répression des opposants à la veille des élections. Le gouvernement de la RDC accorde une valeur primordiale à la protection des droits humains et aux idéaux démocratiques qu'ils incarnent, peut-on lire dans ce communiqué. Détail avec vous, Blaise Sindani Kambala.
Ainsi, la RDC récuse de manière catégorique les allégations des restrictions des libertés fondamentales, d'arrestations arbitraires et d'intimidations dénoncées par l'ONG internationale de défense des droits de l'homme. Le communiqué du gouvernement soutient que, face au cas spécifique cité par Human Rights Watch, les mesures prises par les autorités visent à maintenir l'ordre public, à préserver la sécurité des citoyens et à prévenir toute manifestation de violence. Par ailleurs, les actions prises à l'encontre des personnes spécifiques reposent sur des informations crédibles et de preuves tangibles, affirme le gouvernement. Il rappelle que les revendications démocratiques sont légitimes, mais elles doivent s'exercer dans les respects de règles sans compromettre l'intégrité des citoyens. Enfin, le gouvernement de la RDC rassure que les élections se dérouleront dans la sécurité, permettant ainsi au peuple congolais de choisir librement son dirigeant.
Au Kasaï, pendant ce temps, un haut gradé de la police nationale congolaise, colonel de son état, a été assassiné hier soir à Tshikapa par des bandits armés devant sa maison. À en croire le ministre provincial de l'Intérieur, cet officier a été tué pendant qu'il voulait secourir son voisin attaqué par des criminels. Alain Tshisungu, qui s'indigne de la montée de la criminalité dans la ville de Tshikapa, indique que les mesures sont en train d'être renforcées pour sécuriser les personnes et leurs biens. Il a dit à François Kadima.
Il est mort arme à la main. Il voulait défendre son voisin qui était attaqué. À ce moment-là, il a été visé directement par les assaillants qui l'ont tué à bout portant et puis il est décédé. La mesure interdisant la suspension de moto à certaines heures de la nuit est suivie, mais cela ne sait commettre ses actes de téléphone la nuit. Tu vois qu'ils ont peur, ils ne perdent pas la journée. Nous sommes derrière, nous les traquons, espérant que nous allons finir cette série de canards qui répondit encore à Tshikapa. Nous ne pouvons que dire à la population d'être calme. Nous travaillons jour et nuit pour assurer la sécurité. Ce qui arrive n'est pas... D'ailleurs, même au mois de décembre, de janvier, on a connu une série de criminalités qui n'étaient pas pareilles à ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est, on dirait, un banditisme urbain qui n'est pas une aucune vie. Et on fait quand même un effort pour maîtriser ça.
Alain Tshisungu était au téléphone de François Kadima. Affaire de la disparition de 120 tonnes de cathode de cuivre appartenant à l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining. Je le disais au sommaire de ce journal, plusieurs sources renseignent que le commandant de la 22e région militaire a été mis à la disposition de la justice. L'Institut de recherche en droits humains confirme aussi cette information. Cette ONG de défense des droits humains basée à Lubumbashi plaide pour qu'un procès équitable soit organisé afin d'éviter que les investisseurs ne soient pas découragés. On écoute Hubert Tshiswaka, directeur général de l'IRDH, au micro de Jean Gandou.
Il revient à l'Institut de recherche en droits humains que le général commandant 22e régiment militaire soit en détention à la DEMIAP suite à la dénonciation de vol de 120 tonnes de cuivre cathode qui appartenait à Tenke Fungurume Mining, qui transportait trois tracts de l'entreprise Maj Logistique. Du 1er au 2 juillet, après avoir été détournés de la frontière de Kasumbalesa, on les avait amenés dans l'enceinte de la 22e région militaire. Et de là, ces cathodes ont été amenés à une destination inconnue. L'IRDH avait trouvé que c'était inacceptable qu'on puisse accuser les personnes qui sont censées protéger la République et la population soient impliquées dans des vols des biens de la population. Donc à ce niveau, ce que nous demandons, c'est qu'on puisse organiser un procès équitable au cours duquel le général pourra présenter ses moyens de défense et qu'on puisse vraiment éclairer l'opinion sur ce que c'était effectivement passé, parce que le vol des cathodes de cuivre de TFM est lié à beaucoup de questions d'insécurité dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga.
Rendons-nous à présent au Nord Kivu, où une quarantaine de personnes, essentiellement des voyageurs, dont des femmes et des enfants, sont prises en otage depuis hier mercredi par le secteur, dans les secteurs qui couvrent la région entre les localités de Kiloliré et Burungu, en territoire de Masisi. Des sources concordantes anonymes dans le territoire affirment que parmi ces voyageurs, certains sont gardés dans une école à Rouchebeché, alors que d'autres ont été conduits immédiatement vers des collines surplombant le village de Burungu. Ces acteurs anonymes craignent pour la vie et la sécurité de ces personnes et plaident pour une intervention immédiate des autorités compétentes. Le point avec Gabriel Ouaménia.
La plupart de ces voyageurs étaient transportés les uns par les motards en provenance de la cité de Mweso, de Kichanga et les villages environnants sous occupation des rebelles du M23, alors que les autres otages provenaient de Goma en direction de Mweso et des localités environnantes. Selon les mêmes sources, cette situation a créé depuis hier mercredi une vive panique au sein de la population et a entraîné ainsi des vagues de déplacement des habitants de Burungu et environ. Nos sources précisent que les habitants les plus courageux de Burungu, qui n'ont pas pu fuir hier mercredi, viennent de vider les lieux ce jeudi matin. Par ailleurs, le nombre de personnes prises en otage par les rebelles du M23 pourrait aller au-delà de 40 personnes, soulignent d'autres sources contactées dans les groupements voisins de Kamuronza, en chefferie de Baoundé. Jusqu'à hier soir, le sort de ces personnes n'est pas toujours connu à cause de l'inaccessibilité dans ces secteurs, car toute la zone reste totalement sous occupation des rebelles du M23. Plusieurs acteurs locaux craignent pour la sécurité des otages et plaident pour l'implication des autorités afin d'obtenir leur libération. Goma, Gabriel Ouaménia, Radio Okapi.
En Ituri, trois corps ont été découverts hier mercredi matin dans la ville de Bunia. Il s'agit d'un couple décapité par un présumé membre d'une milice active dans les territoires des Djougou et d'un enfant dit de la rue. Des habitants des Bandai ou de corps où ces deux corps commencent à se décomposer, demandent l'intervention des autorités pour l'inhumation afin d'éviter d'éventuelles maladies. Détail avec Marcel Kizabiamungu.
Les premiers corps est celui d'un adolescent portant des traces d'étranglement. Il a été découvert mercredi matin dans un caniveau non loin du rond-point Kappa. Selon des habitants voisins du lieu, il s'agirait d'un enfant de la rue bien connu et qui ont trouvé refuge à ce rond-point de la route menant à l'aéroport de Bunia, tout près au quartier Bakongolo, précisément sur l'avenue Samaria.
La police scientifique est arrivée là-bas, tous les enquêteurs sont arrivés, ils ont fait des enquêtes à la hâte et ils sont partis, laissant les deux corps là qui étaient déjà en voie de décomposition. Nous nous sommes posé la question, est-ce que c'était à la communauté ou bien à la famille de pouvoir enterrer ces corps pendant que c'était un cas d'assassinat qui a été commis dans la maison et dans une entité administrative. C'était plutôt la responsabilité de l'État de pouvoir évacuer ces corps, les amener au niveau de la morgue. Nous demandons à ce que les autorités puissent prendre leurs responsabilités, que ces corps ne soient pas enterrés tant que nous n'avons pas élucidé, que le gouvernement puisse prendre en charge les obsèques parce que c'est une famille de vulnérables. Jusqu'à présent, il n'y a pas un responsable attitré qui s'est présenté pour prendre en charge ces corps-là.
La police que nous avons contactée n'a pas souhaité pour le moment s'exprimer sur ces trois décès. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu, la force conjointe FARDC et UPDF annonce avoir lancé ce jeudi la deuxième phase de la campagne de sensibilisation à la reddition des rebelles des ADF et leurs dépendants dans les territoires de Beni. Il s'agit d'une opération qui consiste à larguer des messages en collaboration avec la fondation américaine Bridgeway dans la zone où opèrent ses forces conjointes. Selon les porte-parole de ces opérations, les rendus congolais seront pris en charge par le gouvernement après une prise en charge psychosociale et l'apprentissage d'un métier. Le colonel Mac Azoukai explique au micro d'André Kitengi.
En dehors du feu, en dehors des opérations de traque, en dehors des bombardements, nous avons laissé une porte ouverte à ceux qui voudront bien se rendre. Parce qu'il faut qu'on se le dise, il y a des gens qui ont été retenus de force dans cette forêt. C'est des personnes qui, en tout cas, la majorité n'avait pas choisi d'intégrer le mouvement. Ils ont été kidnappés. Donc, il fallait donner aussi une seconde chance à ces gens-là. C'est comme ça que, avec Bridgeway Foundation, les opérations conjointes avaient lancé la campagne de sensibilisation à la reddition. C'est-à-dire, nous distribuons des messages largués. Nous larguons des messages dans la zone où opèrent les unités de la coalition pour permettre aux combattants, peut-être à leurs dépendants, de se rendre. Selon les accords, les rendus ougandais sont rapatriés dans leur pays. Mais les Congolais restent avec nous pour suivre le rouage, le circuit normal quant à ceux. Pour les Congolais, comme je l'avais dit, ils seront rapatriés chez nous parce que ce sont des Congolais. Et ils seront pris en charge aussi par le gouvernement congolais.
Au Maniema, la semaine de l'allaitement a pris fin. Le ministère provincial de la Santé fait un constat amer où seuls 42% des femmes au Maniema respectent l'allaitement maternel exclusif des 6 mois. Docteur Kibungi Mutanga Junior encourage toutes les femmes à allaiter leurs enfants exclusivement de 0 à 6 mois car le lait maternel seul en cette période est nécessaire pour l'accroissement de l'enfant. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
La situation de l'allaitement maternel au Maniema est une situation intermédiaire. Pourquoi? Parce que après plusieurs études, on a trouvé autour de 40 à 42% des femmes qui respectent l'allaitement maternel, par exemple, exclusif, contrairement à l'autre catégorie des mamans qui ne respectent pas l'allaitement maternel exclusif et l'allaitement maternel jusqu'à 2 ans. En termes de causes, il y a un problème d'ignorance seulement des mamans. Nous, personnel de santé, et leaders communautaires, nous devons fournir beaucoup d'informations auprès de nos mamans et futures mères, vu l'importance de l'allaitement maternel. C'est ce que nous avons constaté, que beaucoup de mamans ou futures mères ne sont pas à la hauteur de prendre les bien fondés de l'allaitement maternel. Nous avons décelé le problème et nous avons pris des pistes de solutions telles que nous devons intensifier les informations, l'éducation par rapport aux pratiques liées à l'allaitement maternel exclusif d'abord de 0 à 6 mois et l'allaitement maternel qui doit continuer jusqu'à 2 ans.
Au Kwilu, promouvoir l'introduction des aliments biofertifiés pour lutter contre la malnutrition dans cette province, c'est le but d'un atelier de plaidoyer organisé hier mercredi à Bandundouville par le Centre international d'agriculture tropicale. Cette activité rentre dans le cadre du programme multisectoriel de nutrition et de santé avec l'appui financier de la Banque mondiale pour lutter contre la malnutrition et est mis en œuvre par Harvest Plus. À l'occasion, Dr Kossi Akwaki, responsable de la malnutrition chez Harvest Plus, a fait savoir que la prévalence de la malnutrition tant chronique que celle aiguë est trop élevée auprès des enfants de la province de Kwilu, avec plusieurs conséquences. On l'écoute au micro d'Irène Boma.
Nous sommes venus ici dans la ville de Bandundu pour faire un plaidoyer auprès des responsables des médias et enseignants d'école sur l'introduction des aliments biofortifiés dans la lutte contre la malnutrition dans la province de Kwilu. Et c'est important de faire ce plaidoyer parce que ce sont ces responsables qui vont nous aider à faire la promotion des aliments biofortifiés dans la lutte contre la malnutrition dans cette province de Kwilu. Parce que la prévalence de la malnutrition est très élevée dans la province. Si nous prenons par exemple le retard de croissance, la prévalence est à 47%. Si nous prenons par exemple la malnutrition aiguë globale, la prévalence tourne autour de 10%. C'est quand même grave en termes de conséquences, puisque ces enfants qui souffrent de la malnutrition ont des problèmes de développement mental. Et à l'école, c'est l'échec répétitif, d'où l'importance de lutter contre la malnutrition dans la province de Kwilu. Les aliments dont nous faisons la promotion, ce sont le maïs jaune qui est riche en vitamine A. Il y a les haricots riches en fer et en zinc. Il y a le manioc jaune riche en vitamine A. Et la patate douce qui riche en vitamine A, que nous appelons aliments biofortifiés et qui sont très importants dans la lutte contre la malnutrition.
La Société nationale des chemins de fer du Congo est en pleine relance de ses activités sur le lac Kivu entre Bukavu et Goma. L'entreprise vient d'acquérir 4 vedettes rapides pour le transport entre ces deux villes de l'ex-Kivu. Le directeur général de la SNCC, qui se trouve présentement à Bukavu, regrette que les installations de son entreprise soient sérieusement spoliées par des privés. Il en appelle au gouvernement congolais de tout mettre en œuvre pour libérer ses installations et permettre l'entrée en service des vedettes au début du mois de septembre prochain. Le directeur général de la SNCC, Fabien Moutombe, est au micro d'Emmanuel et la
Le président de la République vient de mettre à la disposition de la SNCC 4 vedettes rapides qui vont travailler entre Goma et Bukavu. Et une vedette peut prendre 82-83 personnes. Ce sont des vedettes rapides qui feront Bukavu-Goma en dehors de 2 heures. Nous sommes venus organiser l'arrivée de ces 4 vedettes, voir comment est-ce que nous allons les exploiter, où est-ce que nous allons les accoster. Je me rends compte que la SNCC, elle est sérieusement spoliée. Nous nous retrouvons les ports, les quais de la SNCC spoliés. Mais comment est-ce que nous allons exploiter les 4 vedettes? Où est-ce que nous allons accoster? Là, la balle est dans les camps de l'État au niveau des deux provinces. La province du Sud Kivu et la province du Nord Kivu. Que les gens dégagent les installations de la SNCC. La SNCC n'a jamais vendu ses installations. Et alors, la SNCC est en plein redressement.
Actualité internationale.
Alors que la diplomatie s'active et que les voix contraires à toute intervention militaire de la CEDEAO au Niger se sont fait entendre après la réunion des chefs d'état-major, l'organisation ouest-africaine n'a pas du tout abandonné l'option de la force pour rétablir la démocratie et le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Selon des sources proches, le processus se poursuit. Le planning qui a été validé à Accra et prévoit en ce moment la mise en place des troupes est en cours. Sommet de BRICS à Johannesburg. En République sud-africaine, Vladimir Poutine justifie sa guerre en Ukraine. Durant la deuxième journée de ce sommet, le président russe Vladimir Poutine est revenu sur la guerre de son pays en Ukraine. « Nos actions en Ukraine sont dictées par une chose, la volonté de mettre fin à la guerre déclenchée par l'Occident et ses satellites en Ukraine », a-t-il dit.
L'invité.
L'invité de ce journal est Maître Liboué Mufumbe Élisée Médard du réseau d'innovationnel organisationnel Rio à Bukavu, au sud Kivu. Il parle de la nécessité de booster le développement à la base au moyen des recettes mobilisées par les entités territoriales décentralisées. Les cas des chefferies et des secteurs de Wamuzimu, de la plaine de la Ruzizi, Lulenge et Tanganyika. Maître Liboué Mufumbe Élisée Médard s'entretient à Bukavu avec Jean Kassami.
Maître Liboué Mufumbe, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Rio convie aujourd'hui 4 chefs d'entité territoriales décentralisées à une session sur comment leur permettre de générer suffisamment de recettes. En quoi le fait pour les entités territoriales décentralisées de générer assez de recettes intéresse-t-il la mission que s'est assignée Rio?
Je rappelle que le réseau d'innovation organisationnelle, c'est une organisation non gouvernementale de droit congolais qui intervient dans 5 domaines d'intervention. La bonne gouvernance et la bonne gouvernance travaillent sur les questions de développement local. Comme les ETD ont reçu le mandat d'assurer le développement local en satisfaisant les besoins ressentis par les communautés et qui suscitent de nombreux conflits, le RIO s'est beaucoup intéressé aux ETD en disant que si le développement local est assuré à travers les ETD, il est possible qu'il y ait vraiment réduction des tensions parce que les communautés trouveront leur compte dans la satisfaction de leurs besoins à travers la fourniture des services sociaux de base de la part des ETD. C'est ce qui a motivé en fait les RIO à s'intéresser à la question en accompagnant ces 4 ETD, notamment la chefferie de Wamuzimu, la chefferie plein la Ruzizi, le secteur de Tanganyika et récemment le secteur de Lulenge, d'abord dans l'élaboration des plans de développement local et maintenant on est en train de travailler sur la mobilisation de recettes.
Quels sont à votre avis les écueils qu'il faut à ce que les recettes ne sont pas suffisamment mobilisées au sein des ETD?
La première difficulté est liée à la faible capacité de mobilisation des ETD. On manque de créativité. Les ETD que nous accompagnons ont reçu de la part de l'État un impôt qu'on appelle impôt personnel minimum, IPM en sigle. Et cet impôt est payé par des personnes qui habitent ces entités, qui dont l'âge varie entre 18 ans et 65 ans. Juste le seul impôt, s'il est bien perçu, et je sais que généralement ils demandent, je crois, 2 dollars, des ETD peuvent avoir suffisamment de moyens pour pouvoir financer le développement local. Mais sur ce plan-là, le constat est tel que les ETD sont incapables aujourd'hui de réaliser ou de mobiliser plus de 10% des recettes prévues dans le budget. Mais outre les recettes budgétaires, ils ont un domaine foncier, ils ont un domaine forestier qu'ils peuvent exploiter aussi pour générer des recettes et ils peuvent aussi développer la coopération, ils peuvent recourir aux emprunts pour s'assurer qu'effectivement les différentes actions de développement sont exécutés. Si les capacités des membres des ETD sont renforcées, il est possible que les nouvelles compétences puissent leur permettre de s'activer dans la mobilisation des recettes à travers plusieurs stratégies. Et c'est là l'objet vraiment de ces assises, pour arriver justement à mobiliser les recettes budgétaires et non budgétaires nécessaires au financement de ces PDL.
Les rétrocessions, les ETD en bénéficient également.
Je sais que les ETD se plaignent souvent de l'irrégularité de la rétrocession. On leur rétrocède la part de recettes à caractère national, et cela, c'est dès de nos années devenu irrégulier. Mais ils se plaignent aussi du fait que la province, qui devrait rétrocéder la part des impôts et taxes d'intérêt commun aux ETD, n'arrive pas. Donc je crois qu'il y a un problème. Mais nous sommes en train de travailler avec les ETD sur leurs recettes propres. Alors, s'ils ont déjà des difficultés de mobiliser ce qu'on leur alloue au regard de leurs compétences, ça signifie qu'ils auront des difficultés de faire le reste. C'est pourquoi on s'est dit, bon, si ils sont vraiment capables, on pourrait évaluer pour dire, voilà, maintenant, si la province et les pouvoirs centraux ajoutent ce que les ETD attendent, les niveaux de développement seraient encore accrus. Mais on ne peut pas croiser les bras et demeurer dans l'attentisme. Ce sont des entités ou des animateurs caractérisés par l'attentisme. Maintenant, on les a autonomisés, on les a rendus responsables, dit, ok, voici vos compétences, voici les moyens financiers, matériels et humains qui sont à votre disposition. Mobilisez et utilisez vous-même ces moyens pour votre propre développement. Et là, l'attentisme continue. Il faut briser cet attentisme et être beaucoup plus créatif et de prendre les choses en main. Nous pensons que s'ils comprennent cela, ils pourront changer la philosophie de gouvernance locale et les choses pourront marcher.
Merci Maître Libre Mufumbe pour toutes ces informations.
Notre invité Maître Libre Mufumbe, Élisée Médard, s'entretenait à Bukavu avec Jean Kassami. Fin de ce journal qui a été mis en onde par Mimi Kindou, Blaise Sindani Kambala l'a coordonné et Ben Kabamba l'a supervisé. Merci à vous de l'avoir suivi et de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.